Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média, au menu Média et Culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture et tous les jours, fériés ou pas, on ne diffuse pas de best-of, rien que du frais. Eux aussi, ils sont frais du jour. Bruno Donnet pour ses télescopages que vous allez retrouver, comme Lisa-Marie Marquez et son portrait, Marc-Antoine Lebray et ses voix, et Louise Bernard pour le journal des médias et les audiences. Là aussi, c'est tout frais. Comment faire des best-of quand on donne les audiences? C'est impossible. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct. Il est 9h05. Vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur Europe 1.fr. Notre infomédia avec ce qui est peut-être le plus beau magazine gratuit au monde. Ce sont les Américains qui disent ça. Il existe depuis 2004. Il est français d'abord sous le nom de Palace, puis Palace Coast. Il se décline maintenant en 2 versions gratuites, toujours en couleur, papier glacé, diffusé à 30 000 exemplaires. Nous serons avec son créateur, Claude Maggiori, directeur artistique de Génie. C'est lui qui a créé la typo et le losange de Libération, pour ne citer que cela. Nos invités ensuite, Brigitte Lecordier et Ronald Reignoux. Leurs noms ne vous disent peut-être rien, mais ce sont eux qui doublent les voix de vos héros préférés, Sangoku, Oui, Titeuf et Spider-Man. Ils sont devenus des stars sur les réseaux sociaux. Ils ont créé des chaînes YouTube et Twitch consacrées au doublage où on reçoit les voix du grand Schtroumpf et de Lara Croft, comme on recevrait Tom Cruise ou Emma Thompson. Enfin, le roi de la soul et du groove, Ben, ex-oncle Saul, mais maintenant il faut l'appeler Ben tout court. Son nouvel album Red Mango regarde plutôt du côté du reggae, de la Jamaïque et des Caraïbes, enregistré dans des conditions très particulières. Il nous racontera. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Luce Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias.
Un nouveau consultant natation pour France Télé, c'est un grand champion. Du sport encore, je vous présente le magazine qui revient une fois par an, uniquement au moment de Roland-Garros. Et puis dans l'actualité aussi, la suite du rapprochement Vivendi-Lagardère et 2 initiatives en soutien aux Ukrainiens, celles d'M6 et de Charlie Hebdo, chacune dans leur genre.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé la saison 2 de La Faute à Rousseau, 2 470 000 téléspectateurs, 12,8% de part d'audience. C'est en baisse par rapport au lancement de la saison 2. C'est généralement le cas entre première et une deuxième soirée de série. Deuxième, c'est M6 avec Top Chef, 2 120 000 téléspectateurs, 12,4% de part d'audience. C'est très faible en nombre de téléspectateurs. Hein. C'est proche de son moins bon score depuis le début de la saison de Top Chef. Et puis troisième, TF1, Grey's Anatomy, toujours en difficulté avec 2 100 000 téléspectateurs, 10,8% de part d'audience.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec le nom du nouveau consultant natation de France Télévisions, c'est Camille Lacour.
Oui, il commentera les championnats du monde de natation du 17 juin au 3 juillet, puis ceux d'Europe qui ont lieu aussi cet été, hein, du 11 au 21 août. C'est une information de Télémagazine. Il a confié avoir tout de suite accepté. C'est vraiment un honneur et un privilège de pouvoir commenter ma discipline et faire passer toutes les émotions qu'il peut y avoir dans les bassins. Et il va pouvoir apporter toute son expertise, hein, puisque c'est celle d'un quintuple champion du monde et pareil d'Europe. Il dit d'ailleurs avoir commencé à travailler, contacter des nageurs pour connaître leur état d'esprit, leur manière de s'entraîner, de quoi donner plein de petites infos et de décryptage aux téléspectateurs de France Télé.
Sport toujours avec un focus ce matin sur le magazine 40A, magazine qui vient de sortir son seulement 2e numéro.
Oui, 2e numéro en 2 ans, car c'est un magazine annuel, un magazine de tennis qui sort au moment de Roland-Garros. Le magazine avait très bien marché hein, l'an dernier pour son 1er numéro avec 10 000 ventes. En coulisses, on retrouve l'équipe de SoPress qui édite Society et SoFoot, entre autres. Et à la lecture de 41, on reconnaît hein, cette patte SoPress. Ce n'est absolument pas un magazine pour les spécialistes de tennis, écrit par des spécialistes. Non, en fait, ce sport est un prétexte pour raconter tout autre chose. Victor Legrand, rédacteur en chef de 41.
Quelqu'un qui n'aime pas le tennis peut très bien lire 40A, peut comprendre quelque chose un peu de la société, du monde, même de l'économie, du pouvoir, de l'amour, des sentiments humains. À travers le tennis, ce sont surtout des histoires humaines avant tout. On est à hauteur de lecteur, comme on aime dire, ça ne comprend pas les gens pour des spécialistes non plus. Donc on s'adresse à eux, on leur parle comme on parlerait à des potes. Et on explique un sujet de manière assez simple, drôle, avec des anecdotes. Beaucoup de travail, évidemment, beaucoup d'intervenants. C'est un peu notre marque de fabrique, de ne pas s'adresser aux spécialistes et de s'adresser à des gens qui n'y connaissent rien au tennis.
D'ailleurs, 40A fait sa une et consacre un long papier à mon fils, Gasquet, son gars et Simon. Ce n'est pas une analyse détaillée de leur façon de jouer, c'est plutôt l'histoire d'une très belle amitié, les 4 mousquetaires, rare dans ce milieu, et puis celle aussi d'une génération bien meilleure qu'il n'y paraît. Autre exemple, on peut aussi lire le portrait d'une joueuse de tennis, Patty Schneider, promise à une grande carrière, mais tombée amoureuse des mauvaises personnes, de deux garçons qui l'ont finalement escroqué, donc histoire humaine plus que sportive, ou encore le récit des plus belles fêtes du monde du tennis organisées chez Castel, une célèbre boîte, des histoires qu'on ne trouve que dans 40A, et cette originalité, c'est l'un des avantages d'être publié une fois par an seulement, et c'est pour cela que l'équipe apprécie aussi cette périodicité.
On ferait un mensuel de tennis, je pense qu'on serait obligé de traiter de sujets qui se traitent ailleurs et de résultats et de jeux. Quand on sort une fois par an, il faut créer l'événement et écrire et faire lire quelque chose qui ne se lit pas ailleurs. Se coller à l'événement Roland-Garros, c'est pas mal. On aime bien le côté événementiel. On pourrait sortir deux fois par an, mais il faudrait qu'on trouve un autre événement qui pourrait être Bercy, par exemple. On y a réfléchi parfois. Mais on aime bien ce côté annuel, ce côté événement, ce côté objet qu'on garderait. C'est un petit détail, mais sur le petit côté de la couverture, vous voyez, si on colle les magazines les uns après les autres, ça écrit 40A. Il y a un logo qui se crée.
Victor Legrand, rédacteur en chef de 40A, que vous pouvez donc collectionner. Le magazine est déjà en kiosque.
Dans l'actualité des médias également, Vivendi détient désormais la majorité des parts du groupe Lagardère.
Oui, groupe dont Europe 1 fait partie. Vivendi a lancé une OPA mi-avril. La première phase vient de s'achever, ce qui fait que le groupe de Vincent Bolloré possède désormais plus de 55% du capital de Lagardère. Vivendi va maintenant rouvrir son offre à partir de demain pour acquérir encore plus d'actions du groupe. L'opération doit toutefois être validée par la Commission européenne pour des questions de concurrence, puisque Vivendi et Lagardère possèdent les deux plus grandes maisons d'édition, Editis et Hachette. Quant aux branches médias, c'est l'Arcom, nouveau nom du CSA, qui doit se prononcer. Arnaud Lagardère a lui annoncé au début du mois qu'il comptait conserver le contrôle de ses radios Europe 1, Virgin Radio et RFM.
À France Télévisions, les syndicats appellent à une grève le 28 juin.
Une grève et un appel à la manifestation pour protester contre la suppression de la redevance, mesure qui, je cite, menace l'existence de l'audiovisuel public, selon les syndicats. Ils reprochent au gouvernement de supprimer la redevance sans qu'aucun engagement ne soit pris pour financer pour un financement pérenne de l'audiovisuel public. Les syndicats plaident pour la mise en place d'une taxe universelle pour le financement de l'audiovisuel, car ils ont peur qu'un financement qui dépendrait uniquement du budget de l'État se retrouverait soumis, je cite, aux arbitrages et aux pressions politiques incessantes. Et ils demandent aussi à rencontrer la nouvelle ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, et Gabriel Attal, désormais ministre délégué aux comptes publics.
Meta, c'est le nouveau nom du groupe Facebook. Meta va rémunérer les auteurs de documentaires ou de reportages qui sont visionnés sur ses réseaux sociaux.
Mais c'est un accord avec la SCAM qui vient d'être trouvé. La SCAM, c'est l'organisme qui gère les droits d'auteur dans le secteur de l'audiovisuel. Dès qu'un extrait ou un reportage ou documentaire entier sera visionné sur Instagram ou Facebook, les auteurs toucheront de l'argent, comme c'est le cas quand c'est diffusé à la télévision. Les montants des rémunérations n'ont en revanche pas été communiqués. Bonne nouvelle donc pour les auteurs, mais aussi pour les utilisateurs de Facebook et Instagram, car cela permet de continuer à avoir accès à ses contenus journalistiques et de pouvoir librement les partager à ses amis.
Les Ukrainiens mis à l'honneur dans Charlie Hebdo.
Le journal satirique publie les dessins de caricaturistes ukrainiens qui continuent de travailler dans leur pays en guerre. Une vingtaine de caricatures en tout. L'humour face à l'horreur. Humour qui se moque largement des Russes, vous vous en doutez. Charlie Hebdo va rémunérer l'association des caricaturistes d'Odessa. Elle organise en ce moment même une exposition dans la ville ukrainienne et c'est de là que viennent les dessins publiés dans Charlie Hebdo. C'est à retrouver dans le journal de cette semaine, en kiosque depuis hier.
Et puis cette fois-ci, les questions d'une initiative de soutien pour les enfants ukrainiens, initiative de la chaîne M6.
Elle va proposer 5 de ses films d'animation en ukrainien, ceux diffusés en ce long week-end d'Ascension et celui du week-end de la Pentecôte aussi. Alors c'est en partenariat avec Disney. La version ukrainienne sera disponible sur le canal multilingue d'M6. Si vous regardez, vous n'aurez pas la version ukrainienne à la télé, mince. Évidemment. Depuis le début de la guerre, 85 000 Ukrainiens se sont réfugiés en France, dont de nombreux enfants, de quoi leur apporter un petit peu de réconfort. Les films d'animation concernés sont Le Monde de Nemo, Le Monde de Dory, Les Indestructibles et Zootopie, rien que ce week-end. Ah, et Toy Story 4, ce sera à la télévision le week-end prochain et c'est inédit. Même pour vous, si vous le regardez en français. C'est la première fois que ce sera diffusé à la télé.
Merci beaucoup, Luce Bernard. Justement, on va parler tout à l'heure des voix de dessins animés. Ça sera dans une vingtaine de minutes.
Et voilà, je vous offre encore une transition magnifique.
Toutes ces infos à retrouver. Moi aussi, j'offre une transition dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite, c'est sur europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour. On parle du magazine Palace, devenu Palace Cos, qu'on considère comme le plus beau magazine gratuit au monde. Couleur, papier glacé, diffusé à 30 000 exemplaires. Nous serons avec son créateur, le volubile Claude Maggiori. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Notre infomédia va feuilleter et scruter ce qui est peut-être le plus beau magazine gratuit du monde. C'était pas moi qui dis ça. Il existe ce magazine depuis 2004, c'est-à-dire qu'il est majeur depuis cette année, 18 ans, il est français. D'abord sous le nom de Palace, puis Palace Coast. Il se décline maintenant en deux versions, toujours gratuit, couleur, papier glacé, diffusé à 30 000 exemplaires. Je l'ai dit, il est né en 2004, c'est une performance rare et enviable. À la base, il a été créé pour un hôtel parisien très chic, l'hôtel Coast, comme produit d'appel. Et maintenant, peut-il s'émanciper de cette tutelle? C'est la question qu'on va poser à son créateur, directeur artistique de génie. C'est lui qui a créé la typo et le losange de Libération que tout le monde connaît. C'est lui qui a refait la maquette de Télérama ou des Inrocks et aussi la ligne graphique des cinémas MK2. Bonjour Claude Maggiori.
Bonjour.
C'est donc vous qui avez créé le magazine Palace. Je ne l'ai pas dit, vous avez aussi participé à la création du quotidien Libé en 72 en tant que directeur artistique. Vous avez monté une agence éditoriale spécialisée dans la conception de journaux. Vous avez relancé et dirigé, c'est en 84, L'écho des savanes, créé par Gottlieb, encore un grand nom. Et vous avez aussi produit des émissions de télé comme l'émission Choc sur TF1. Mais là, on parle de presse écrite, quoique ça se décline évidemment sur Internet. Mais d'abord, le papier, comment est arrivé, comment est né cet ovni Palace?
On avait envie, nous, de faire un journal sur Paris. En fait, tout le monde s'excite sur Barcelone, sur Londres. Et en fait, les gens oublient un peu Paris. Nous, notre idée de départ, c'était de dire on va faire un magazine sur l'effervescence parisienne. En essayant d'insister sur le fait que Paris n'est pas simplement une ville-musée, mais une ville où il se passe énormément de choses. C'est la capitale de la mode, c'est la capitale de la joaillerie. Donc on voulait un magazine qui racontait cette énergie-là. Mmh. Et ça a marché tout de suite. C'est-à-dire que notre idée était de se dire que pour lancer un magazine sur la ville, sur Paris, il fallait le faire dans un réseau qui était un réseau protégé. D'où l'idée, parce qu'aujourd'hui, un gratuit, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas un circuit qui va avec.
Juste un mot, quand vous lancez l'idée du magazine, vous lui dites, la gratuité fait partie de l'idée.
Oui, et quand je disais que j'allais lancer aux annonceurs un gratuit chic, je n'avais pas le temps de dire chic, ils raccrochaient. Et c'est Monica Bellucci qui nous a sauvé la vie.
C'est pas vrai.
Si,
racontez.
C'est notre marraine, parce qu'elle a accepté de faire la couverture du numéro 1. Et après, je disais, je lance un magazine avec Monica Bellucci en une, et à ce moment-là, les gens m'écoutaient. Parce que l'idée du gratuit, et c'était quelque chose de cheap,
bien sûr,
pas quelque chose de chic. Et donc nous, on a réussi, grâce à elle, à imposer le gratuit chic.
Mais ça s'appelle Coast. Comment, quand arrivent Jean-Louis Coast et les hôtels Coast, qui sont des hôtels chics de la capitale, en fait, qui sont installés, j'explique pour les gens qui ne connaissent pas la géographie de Paris, en marge des grands hôtels de luxe?
Jean-Louis Coast, qui est un ami, représentait une movida parisienne, c'est-à-dire une façon différente d'être à Paris. Il avait lancé les hôtels, les brasseries, donc l'avenue, l'esplanade, la société. Et ça ne peut pas marcher un gratuit si vous ne vous adressez pas à une cible qui est définie. Moi, je pense que le gratuit peut être parfois plus fort que le payant, parce que c'est le gratuit qui va vers ses lecteurs. Il n'oblige pas les lecteurs à aller au kiosque, qui est un endroit quand même un peu confus, un peu compliqué. Donc notre idée, c'est de se dire, voilà, on va lancer une nouvelle façon d'être à Paris et on va le faire avec ceux qui symbolisent cette nouvelle façon, qui étaient les hôtels Coast. Et ça a marché tout de suite. C'est-à-dire, les annonceurs ont compris très vite, les lecteurs ont compris tout de suite. Parce que nous, notre idée, c'est pas de faire un gratuit. On dit jamais gratuit, on n'aime pas ce mot-là. On dit qu'on fait un magazine cadeau.
Ouais.
Et comme on fait un magazine cadeau, on a voulu qu'il soit le plus beau possible, le plus riche possible, le plus dense possible. D'où l'idée qu'effectivement, il est plus beau ou parfois plus intense, plus plein qu'un magazine payant.
Et paradoxalement, il y a moins de pubs que dans un pays, que dans un payant. Ce qui est assez extraordinaire, on parlera du business plan et du financement
ils sont plus
après.
Chers, peut-être.
Alors d'abord, qu'est-ce qu'on trouve dans ces pages?
On trouve une façon de créer des plaisirs. Notre idée, c'est de se dire, voilà, le magazine, c'est comme si on invitait les gens chez nous ou dans un restaurant. On y invite des personnalités qu'on appelle les talents qu'on a envie de rencontrer. Et on y propose tout un tas d'activités, tout un tas de plaisirs. On est un magazine de plaisir et un magazine qui donne envie. Et ça marche en pub parce que les gens vont avec le magazine en boutique acheter des choses.
Alors, il y a des interviews de stars. Ouais. C'est vous qui les faites ou vous les récupérez?
Non, on a une correspondante à Los Angeles, Juliette Michaud, qui fait pour nous les interviews de toutes les stars étrangères, toutes les stars américaines, australiennes ou anglaises. Donc, elle est correspondante depuis longtemps. Elle était correspondante pour Studio. Elle est encore correspondante à Los Angeles.
Et puis, il y a de la mode.
Ouais.
Y a des infos culture, il y a un guide des expos à voir, il y a un guide des restaurants avec les adresses. Comment ça se passe? Il y a un truc qui est très étonnant dans ce que vous faites, c'est par exemple les photographies sont toujours très 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 soignées, y compris pour les restaurants. On a envie d'être partout. On les regarde, on se dit « Oh, j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là ».
Ça serait quand même un malheur si moi, qui ai été directeur artistique pendant des années, je choisissais des mauvaises photos. Donc on prend un soin énorme à choisir les photos. La mode, c'est nous qui produisons. C'est-à-dire Palace est un magazine qui produit l'essentiel de ses photos. Toutes les modes depuis 15 ans sont produites par nous.
Ouais.
C'est Anne de la Landre, qui est la rédactrice en chef mode, qui produit les modes. C'est-à-dire c'est nous qui shootons, comme on dit dans le métier, qui organisons les shootings de mode.
J'ai rarement vu ça. Moi, j'ai connu la grande période de la presse. J'ai travaillé à Actuel, qui est un journal de presse écrite, mais je n'avais jamais vu ça. Là, sur la couverture dernier Palace Coste, rien que pour la photographie de couverture, il y a les crédits. Hein.
Oui, bien sûr.
Il y a 8 noms. Il y a la mannequin, évidemment, le casting, photographe, directrice artistique, styliste, maquilleuse, coiffeur et même manucure.
Mais oui.
Vous payez 8 salaires pour une photo.
Oui. Ce n'est pas des salaires, heureusement, c'est des honoraires. Mais,
non, mais
enfin,
ils sont payés quand même. Ce n'est pas vos copains qui travaillent. Non,
bien sûr, bien d'accord. Sûr. Mais c'est essentiel. Aujourd'hui, la presse écrite, elle ne peut survivre que si elle apporte un plus, un vrai plus. Nous, on essaye d'apporter un vrai plus. On apporte un guide de la ville, un guide glamour et séduisant qui donne envie aux lecteurs et aux annonceurs de nous accompagner dans cette envie d'être les rois de la ville. Paris est une ville géniale, mais évidemment, un certain nombre de gens sont exclus de plein de choses parce qu'ils ne peuvent pas entrer, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Nous, on donne cette envie d'entrer partout. On est comme un sésame.
Ouais.
Et c'est ça qui fait l'intérêt du magazine et c'est ça qui est très excitant à faire.
Ah, moi, je trouve ça formidable. Moi, ce qui m'étonne vraiment, c'est que les journaux n'ont plus l'argent pour payer 8 factures, 8 honoraires pour une photo, pour une série mode.
Alors, il faut quand même dire qu'on paye beaucoup moins que Vogue. Hein. Mais justement, aujourd'hui, il faut que la presse commence à produire à des prix raisonnables. Sinon, la presse écrite va mourir. Nous, Palace, est produit de façon mesurée, de façon contenue. Sinon, ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, le marché publicitaire, il va comme il va, c'est-à-dire pas toujours bien. Nous, heureusement, on a des annonceurs qui sont très fidèles, parce qu'ils font confiance, parce qu'ils sont étonnés qu'on arrive à faire cette qualité.
Vos annonceurs sont étonnés, ils sont même étonnants. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme annonceur dans Palace Cop et dans Palace Coste? Réponse dans quelques instants. Culture Média continue avec Claude Maggiori.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Claude Maggiori, c'est le créateur de cet OVNI et de ce petit miracle, un magazine gratuit sur papier glacé avec beaucoup de pages et diffusé à 30 000 exemplaires. Il se décline en deux versions, Palace Coste qu'on peut retrouver dans les hôtels Coste et puis Palace Cop qu'on peut retrouver dans beaucoup plus d'endroits. C'est un journal qui raconte la ville, c'est un journal qui raconte les tendances. Vous êtes branché, mais parfois vous tournez le dos à la tendance volontairement. Par exemple, dans le dernier numéro de Palace Cop, il y a une pleine page, un article consacré aux boucheries nivernaises, fournisseurs de viande de l'Élysée depuis les années 50. Vous n'êtes pas mis à la mode végane.
Non, parce que les boucheries nivernaises se relancent.
Ouais.
Et nous, on est là pour aider un certain nombre d'individus ou un certain nombre de marques à se relancer. C'est le rôle du magazine. Si on veut traiter l'effervescence parisienne, il faut être partenaire avec l'effervescence parisienne. Nous, on est partenaire, en gros, partenaire entre guillemets, il n'y a pas de partenariat financier, mais on est partenaire avec toutes ces marques qui innovent. Parce que si on ne traite pas la nouveauté, pour un magazine sur Paris, ben on ne traite rien.
Bah, attendez, juste un mot pour clore le chapitre de la viande. Innover, c'est de faire des steaks véganes sans viande. C'est ça l'innovation, non?
Ouais, mais c'est tellement bon de manger côte de bœuf, bien grillé.
Ça ne sera pas notre sujet aujourd'hui. Très étonnant, puisque vous parlez de collaboration. Vous donnez des adresses d'hôtels alors que le magazine a été créé à la faveur de l'hôtel Coste. Ils ne sont pas jaloux?
Pas du tout. L'idée, c'était d'une proximité culturelle.
Mmh. Alors, je dois dire un mot. Les hôtels dont vous donnez les adresses, il y en a un à Courchevel et l'autre à Saint-Tropez, là où il n'y a pas d'hôtel Coste.
Non, pas simplement. Non, ah. Non. On parle de. On n'a jamais eu, avec Jean-Louis Coste, qui est un ami, on n'a jamais eu ces restrictions-là parce que c'est des restrictions mesquines. L'important au début était de créer une proximité culturelle.
Mm-hmm.
Ce que Jean-Louis Coste aimait dans l'idée d'être partenaire avec nous, au départ, c'est cette proximité culturelle. L'important était de raconter que lui était un des éléments de la movida parisienne, de l'effervescence parisienne, du mouvement parisien. Et c'est vrai, d'ailleurs.
Il vous finançait? Il vous finance toujours, Coste?
Non,
ou pas?
Il nous a financé au tout début.
Ouais.
Et puis, il a été actionnaire au tout début. Et puis là, il n'a que 10% des actions.
Et vous en êtes émancipé. Palace Coste, il y a 80 pages, 6 numéros par an, qui est donné distribution exclusive à l'hôtel, dans les chambres, le restaurant, le hall, le lobby, comme on dit. Palace Cop, 132 pages, 30 000 exemplaires, 230 lieux de distribution, luxe, branché, essentiellement à Paris. Quelque chose m'a très étonné. On peut même s'abonner.
Oui.
C'est étrange, c'est pour rigoler ou pas?
Non,
on a fait un peu ça comme un gag. Gratuit.
On a un peu fait ça comme un gag, mais parce que ça correspond à une demande.
Oui.
En fait, un certain nombre de gens hésitent parfois à entrer dans nos établissements. ils sont un peu intimidés parfois. Alors que moi, j'adore quand les gens entrent à l'Hôtel Coste, prennent le magazine et ressortent. Il n'y a aucune obligation de consommation dans le magazine. Au contraire, d'ailleurs. Donc ça, et on a donc lancé cet abonnement. Je dois dire que pour l'instant, par rapport au premier, on en a trois.
Vous avez trois abonnés ?
Depuis trois semaines que le journal est sorti.
C'est la première fois qu'on sait le... 48 euros les 6 numéros. 6 x 8, 48, ça nous met le numéro à 8 balles.
Ouais, mais ça va beaucoup se développer.
Vous êtes affecté par le prix du papier, par la hausse du prix du papier ?
Oui, le papier a doublé, plus 100%. Donc on a été amené, avant, Palascope faisait plus de pages, 148 pages. J'ai dû, pour essayer de tenir les comptes, on est face quand même à une inflation des coûts du papier et des coûts de l'énergie qui fait aussi augmenter le prix de l'impression. Donc j'ai réduit, j'ai enlevé une trentaine de pages.
Quand on regarde dans le magazine, il y a des articles sur la dernière Ferrari ou sur la dernière Bentley. J'ai bien compris que c'était pour rêver. J'imagine pas que tous vos clients soient des acheteurs de Ferrari. Quelle est votre cible ?
Notre cible, elle a l'avantage d'être définie. C'est-à-dire que, et c'est une grande qualité ça, des magazines. Quand on sait à peu près, en gros c'est des jeunes urbains qui sont en train de réussir.
Ils sont CSP, vous le dites, dans votre Media Kit, c'est le kit qu'on envoie à la presse pour parler, CSP++.
Oui.
C'est plus que CSP+.
Oh, allez, on peut mettre un plus, deux plus, trois plus. Non, l'idée c'est plutôt de s'adresser à des jeunes adultes qui sont en train de réussir. À l'Hôtel Coste, au départ, moi j'étais fasciné, il y avait le nouveau cinéma, il y avait la nouvelle télévision, il y avait la nouvelle mode. Et c'est ça que j'adorais dans l'association avec Coste, c'est que ça disait déjà le public. Au début, on n'avait pas besoin d'expliquer aux annonceurs qui était notre cible, parce que comme ils déjeunent ou ils dînent tous les jours et tous les soirs à l'Hôtel Coste, en fait, c'était eux-mêmes. Mmh. Et ils comprenaient parfaitement quelle était la cible. Aujourd'hui, c'est extrêmement important d'avoir une cible. Le marché publicitaire est extrêmement perturbé. Mmh. Il faut convaincre.
Alors, qui est votre cible ? Les hommes, les femmes, ça se partage presque à égalité.
Un petit peu plus de femmes.
60% féminin, 40% masculin. Je vais donner les chiffres parce qu'ils sont très, très, très précis. On voit que c'est vraiment le cœur de votre métier puisque c'est le cœur de votre financement. Et on ne peut pas faire ce métier si on ne connaît pas qui est notre cible. 65% de lecteurs français, 45% de parisiens. Et vous connaissez même le détail des 35% de lecteurs étrangers.
Oui, parce que on le sait, parce que dans les établissements, ils payent avec leur carte bleue.
Ouais.
Donc, on sait à peu près qui passe dans les établissements. On a fait faire les études par le Coste, et on sait parfaitement comment se décline et comment se découpe le lectorat.
C'est comme le magazine d'Air France qu'on trouve dans les avions, l'édition est bilingue, pour quelle raison ?
Parce qu'il y a beaucoup de clients étrangers, beaucoup de clients anglo-saxons.
Oui, mais vos annonceurs sont français, en quoi ça les intéresse de savoir qu'un type qui repart en Italie, au Japon, en Espagne, en Allemagne, a aimé une adresse d'un bijoutier rue Quincampoix ?
Parce que quand il est à Paris, il va acheter des choses. Les touristes, entre guillemets, ou ceux qui viennent pour affaires, ils restent 3 ou 4 jours en moyenne, ils consomment énormément. C'est ce qui fait d'ailleurs de la place parisienne une place extrêmement importante. Ils consomment de la mode, ils vont chez Dior, ils vont chez Van Cleef, ils vont chez Chanel, évidemment, c'est normal. Et ils vont aussi parfois au Monop. Mais l'important est que pendant qu'ils sont là, et d'ailleurs on l'a vu au moment du Covid, on a souffert, nous, pendant le Covid, comme tout le monde. Bah, quand il n'y avait pas les touristes, quand il n'y avait pas les étrangers, la consommation à Paris a baissé. Là, elle a repris. La fréquentation des hôtels est très bonne. Mais c'est très important, ça.
Dernière question, média. Vous avez une vraie rédaction. Il y a une rédaction fixe. Il y a des pigistes. Comment vous travaillez ?
On travaille. On est, en fait, 5 au bureau, qui est au Ticton, 4 au Ticton. Et on a un volant d'une quinzaine de pigistes qui travaillent sur des sujets qui l'intéressent. On a une personne, Sandra Serpero, qui s'occupe des restaurants. Patrick Thévenin, qui s'occupe de la musique, qui sont, eux, concentrés sur des rubriques. Et puis, on a un certain nombre de journalistes plus riches, je dirais, multicartes, qui sont capables de faire des portraits et des sujets.
D'accord. On peut s'abonner, ça coûte 48 euros. Et sinon, on peut venir l'année pour 6 numéros. Et sinon, on peut venir à Paris, dans les hôtels. Il y a la liste de tous les points de diffusion. Je ne peux pas les citer, puisqu'il y en a une double page écrite très, très, très petit. Merci beaucoup, Claude Maggiori, responsable, créateur de ces deux magazines, donc Palascoste et surtout Palascope. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Dans Culture Média. Nous, on se retrouve dans un instant avec Sangoku, oui, oui, Titeuf, Spider-Man. Ils seront dans ce studio grâce à leur voix. Ce sont Brigitte Lecordier et Donald Renew, les pros du doublage, qui sont devenus des coqueluches sur les réseaux sociaux. Ils ont créé des chaînes YouTube et Twitch sur le doublage avec un public d'habitués. Ils reçoivent le grand Schtroumpf ou Lara Croft, exactement comme si on recevait Tom Cruise ou Emma Watson. Ils seront avec nous. On en est très flattés. À tout de suite. 9h.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Brigitte Lecordier.
Bonjour.
Vous êtes comédienne doubleuse, vous êtes la voix de Son Goku dans Dragon Ball, celle de Oui Oui également, et doubleuse pour de nombreux dessins animés ou séries cultes, Babar, Père Castor, Alf ou encore Alerte à Malibu. Avec vous et avec nous, Donald Reignoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédien également doubleur, la voix du dessin animé Titeuf, c'est vous, la voix de Spider-Man sous les traits d'Andrew Garfield au cinéma, c'est également vous. Et si on vous reçoit tous les deux ce matin, c'est non seulement parce que des millions de Français connaissent vos voix grâce à la télévision, mais parce qu'en plus, vous êtes devenu aujourd'hui populaire grâce aux réseaux sociaux. On va en parler. Première question, comment ça va, Sangoku ?
Ça va très bien, merci.
Titeuf, comment vous va ?
Ouais, ça va très bien, la grosse plateforme le matin. Ça va bien ?
C'est dingue parce qu'on a l'impression d'être transporté dans la télé. Comment raconter l'histoire ? Quel est votre parcours à chacun, Brigitte Lecordier ? Comment vous êtes venue à faire des voix ?
Ben, je suis venue avec mon nuage magique.
Non mais comment ça a démarré en vrai ?
En vrai, ben, moi...
Vous ne savez plus quelle est votre vraie voix ?
Non, je ne sais plus qui je suis d'ailleurs, ouais. Comment je m'appelle. J'ai commencé par le cirque, moi je suis clown au départ. Et puis, ben, du cirque, comme j'étais marrante, petite,
c'est le principe des clowns, hein, d'être marrant.
Voilà. Je vous le dis juste comme ça. On est venu me chercher pour faire du théâtre.
Ouais.
Et notamment pour jouer des enfants.
D'accord.
Parce que j'étais vraiment... Enfin, maintenant, je suis extrêmement grande, mais avant, j'étais petite.
Voilà. Et vous aviez la voix au perché.
Et... ouais, parce que j'ai la voix grave maintenant.
Non, je vous demande, je vous demande.
Oui, j'avais la voix... je parlais comme ça, quoi. Maintenant, je parle comme ça.
Même question à vous, Donald Reignoux. Comment vous êtes venu à faire du doublage ?
Eh ben, c'était à l'époque de La 5, ça prend déjà un petit peu de temps.
Et La 5 de Jean-Claude Bourret ?
Ouais.
Vous étiez né ?
Bah, je suis de 82, hein,
à peine.
Vous étiez à peine né quand même.
C'est ça, j'avais 10 ans.
Voilà.
Et ils cherchaient des enfants, justement, pour, avec Brigitte, avoir des enfants, des vrais enfants, pour les Disney, tout ça. Donc, du coup, je suis arrivé
pour
à ce
doubler.
Moment-là. Ouais, ils cherchaient des enfants à ce moment-là.
Alors, je vous arrête tout de suite parce que j'ai toujours cru que les enfants étaient doublés par des femmes.
Souvent, ouais, bien sûr.
Et pas par des enfants. Parce que c'était trop dur à faire travailler. En plus, les lois sociales,
Exactement. Plus
ils sont pas focus, ils sont pas sérieux, plus les cours. Donc, vous étiez un enfant qui faisait des voix.
C'est ça, et j'ai commencé grâce à un petit coup de pouce du destin à mes parents que j'embrasse et qui m'ont mis ce petit coup de pouce et puis que j'ai entretenu et aujourd'hui on en est là et c'est cool.
On va arriver au sujet qui nous intéresse, vous venez de le dire, on en est là. Brigitte Lecordier, le personnage le plus connu que vous allez interpréter, c'est évidemment Son Goku, le héros de Dragon Ball. On est en 88, puis vous ferez la voix de son fils, Shagohan, plus d'autres personnages du dessin animé. Est-ce qu'à l'époque vous aviez conscience de la notoriété de votre voix ?
Absolument pas. On était dans un studio d'enregistrement. On n'avait aucune conscience du public qui était derrière la télévision. Et ça, cette conscience, on l'a eue à l'arrivée d'Internet, en fait. Et où les gens nous ont joints directement et on s'est rendu compte qu'on avait un public énorme.
Et vous, Donald, y a un personnage qui va changer en quelque sorte votre carrière.
Il y en a eu deux.
Ouais, alors allez-y.
Moi, je dirais que c'est Titeuf et Spider-Man, hein, les
ouais.
deux. Donc, c'était incroyable la popularité de ces personnages-là. Et comme je le dis souvent, Titeuf aujourd'hui fait partie de mon ADN. Et puis la fierté de faire un super-héros comme Spider-Man, c'est incroyable pour le gosse que j'étais et que je suis encore.
Vos histoires personnelles sont un tout petit peu différentes parce que Brigitte Lecordier, après Dragon Ball, vous racontez qu'il y a eu un passage à vide. Pour quelle raison ?
À cause du Club d'eau.
Club Dorothée.
Oui, c'est ça. On a été un petit peu jetés avec l'eau du bain, les japonaiseries et tout ça, avant que ça redevienne hyper apprécié.
Ça, c'est pour Dragon Ball. Mais
oui.
votre voix, était identifiable à ce point que vous fassiez partie de l'eau du bain ?
Oui, c'est vrai. Oui, ma voix certainement était identifiable. Et puis, quand les gens m'entendaient, ils disaient « Ah, c'est la voix de Goku !» Et ça ne plaisait pas aux directeurs de chaînes différentes en disant « Bah non, mon autre personnage, c'est pas Goku. »
Sauf
aujourd'hui, c'est chouette parce que maintenant, les gens disent « C'est Brigitte !» Et ça change tout, quoi.
Et alors justement, Brigitte, vous êtes revenue dans la lumière grâce aux réseaux sociaux.
Ouais.
De quelle manière, pourquoi et comment avez-vous créé votre chaîne YouTube ?
Ben, j'ai créé ma chaîne YouTube parce qu'en fait, j'avais créé justement un petit dessin animé qui s'appelle Allô, c'est Ninou, qui sont des canulars téléphoniques que j'ai fait avec ma voix d'enfant et où les gens sont juste formidables. Ça réconcilie avec l'humanité, ce petit programme. Vraiment, hein, les gens, t'as envie de les embrasser à la fin du canular. Et du coup, je me suis retrouvée avec ce petit produit dans les mains et plus diffusé par la télé parce que j'avais un contrat de 2 ans, puis il était fini. Et il s'est trouvé que je travaillais avec Cyprien à ce moment-là.
Le youtubeur ?
Voilà, je faisais l'épopée temporelle pour lui. Mm-hmm. Et je lui ai dit, ben voilà, j'ai ce petit programme, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça serait judicieux de le mettre sur une chaîne ? Et Cyprien me dit, mais évidemment, il faut que tu aies ta chaîne YouTube, tu vas voir. Tu vas cartonner, c'est exactement ce qui s'est passé. Quoi.
40 000 abonnés en deux jours.
Oui, même plus je crois.
Vous avez combien aujourd'hui ?
280 000.
Pas oui. 280 abonnés. Hein.
282 000 même, ou 87 000.
Alors, sur votre chaîne YouTube, on retrouve vos rencontres avec des fans, vos rencontres avec d'autres doubleurs, des secrets du métier. Par exemple, à l'époque du dessin animé Dragon Ball, parfois les personnages changeaient de doubleur pour un ou plusieurs épisodes. Vrai scandale pour les fans de la première heure, comme notre rédac-chef Bastien Collignon. Bastien, vous expliquez, Brigitte, le pourquoi du comment sur votre chaîne. Ça va consoler Bastien, on écoute.
Lorsque nous étions pris pour jouer un rôle dans une série, par exemple, il fallait être libre tous les jours d'enregistrement. Seulement, ça s'étalait sur des mois, voire des années, pour une même série. Ou alors, au contraire, il fallait finir la série dans la semaine pour cause de diffusion.
S'il se trouvait qu'en même temps, nous jouions dans un film, une pièce de théâtre, un tournage, ou étions sur un autre plateau de synchro, on nous remplaçait le temps de notre absence, sans penser une seconde que cela pourrait choquer les auditeurs.
Car personne ne pensait, même pas nous, que vous étiez si assidus à nos programmes et surtout attachés à nos voix.
Brigitte Lecornier, qu'est-ce que ça a changé pour vous d'avoir cette chaîne YouTube ?
Ça a changé beaucoup de choses parce qu'en fait, les gens sont revenus à moi. J'ai pu rencontrer les gens qui me soutenaient depuis longtemps. Et j'ai pu recommencer à tourner. J'ai refait de la radio, j'ai refait du doublage. Et voilà. Et alors que c'était vraiment en sommeil un petit peu, quoi, depuis quelques années.
Je dois dire à nos auditeurs et nos auditrices que Brigitte Lecordier n'exagère pas. Vous avez même eu les honneurs d'un article dans le Télérama, c'était le 9 février dernier. Je cite Télérama, icône nationale. C'est à peine exagéré, on lui voit un culte jusqu'au Japon de la culture geek née avec les animés nippons, les mangas et les jeux vidéo. Ses intonations ont traversé plus de 30 ans de création audiovisuelle et bercé les oreilles d'innombrables gamins qui lui sont restés fidèles sur plusieurs générations. Ça doit faire un drôle d'effet de lire un article comme ça qui parle de soi,
génial.
Surtout dans Télérama qui est une référence, c'est pas un journal de geek justement.
Oui, j'ai eu Le Monde, j'ai eu Télérama, j'ai eu la quatrième de Libé. Tout le monde est revenu à moi d'un seul coup grâce à cette chaîne YouTube. C'était quand même assez dingue, quoi. Et j'ai pu, du coup, je suis revenue dans les radios, les
le
journaux.
Et le truc extraordinaire, et vous êtes dans Culture Média. Vous
Merci.
N'êtes pas seul, vous êtes Donald Renew.
Ouais.
On n'a pas demandé à Donald Renew comment est née sa chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on y trouve. Justement, on marque une pause et on y va. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Nous sommes avec des voix, Brigitte Lecordier avec nous, Donald Renew. Donald, vous êtes la voix notamment de Titeuf. Personne ne me croit si je dis que c'est vous la voix de Titeuf.
Moi, c'est moi, petit peu d'encole, je suis là. Hein.
Vous avez aussi créé une chaîne YouTube, mais c'est sur Twitch que vous avez lancé votre émission entièrement dédiée au doublage. Ça s'appelle le Stream VF, VF pour version française. Comment est né ce projet ?
C'est né du jeu vidéo Spider-Man sur PlayStation, il faut le dire, parce qu'il y avait une petite fonctionnalité qui permet de streamer de sa console. Mm-hmm. Et je me suis dit, tiens, ça va être rigolo de pouvoir découvrir le jeu vidéo avec le public, mais vraiment de le découvrir. Et ça a cartonné. Et je me suis dit, ok, ça cartonne, et on va développer le concept avec les copains et faire venir tout le monde sur le doublage. Et puis après, on s'est dit, on arrive au bout du concept sur les jeux vidéo et on va ouvrir comme un talk, comme là, et pour revenir sur la carte des comédiens. Et on en est à 54 émissions de 2 heures, donc j'en suis ravi.
Avec quelle récurrence ? Une par semaine, une par mois ?
C'est tous les mardis à 19h, un mardi sur deux. Donc la prochaine, c'est le 31 mai. Voilà.
À quoi ça ressemble ? Qu'est-ce qu'on voit à l'image ?
Et justement, on est en plateau, dans les canapés, puis on fait une rétrospective de la carrière avec des extraits, comme on avait des extraits d'émissions. On passe sur les rôles phares et puis on fait des séquences redoublage et ça marche toujours fort. Vraiment, c'est un vrai plaisir de faire ça.
C'est quoi une séquence redoublage avec des redoublants ?
Non, c'est ça. On récupère un extrait culte du comédien, de l'extrait, et puis on le redouble en direct. Et puis c'est toujours un moment qui est, même pour moi qui suis du métier, c'est toujours un grand moment quand on a eu des séquences folles avec la Pumba, Michel Elias qui nous a fait Pumba. Je me faisais waouh. Enfin, c'est toujours des moments magiques.
Il y a du bêtisier aussi ou pas ?
Il y a du bêtisier, mais on est en direct, donc on fait toujours très attention à ce qu'on dit.
Dans le Stream VF, vous recevez toutes les stars du doublage français, des personnages les plus mythiques du cinéma, des dessins animés, même des jeux vidéo. Vous l'avez dit, on va entendre un extrait. L'émission dans laquelle vous receviez les deux voix d'Harry Potter et de son ami Ron Weasley, les comédiens Kéliane Blanc et Olivier Martet. Ils ont commencé le doublage enfant et ils l'ont poursuivi ado. Et du coup, ça génère quelques questions techniques.
Il y a une très bonne question de Godric, parce que évidemment, vous avez vieilli, vous avez passé d'enfant à l'âge adulte avec eux, mais évidemment, vous n'êtes pas des machines, vous avez mué à des moments différents. Comment ça s'est passé, ce truc-là?
Je pense, moi, que j'ai mué un peu après Daniel Radcliffe, mais au final, les films, on les faisait tous les ans et demi.
Ouais.
Donc il y a quand même un laps de temps qui est assez grand pour qui nous a permis d'entre le 1 et le 1, j'avais pas du tout mué, le 2, je pense que j'étais en plein dedans.
Ah ouais.
Et le 3, vraiment totalement muet. Et donc, en fait, on a suivi aussi le personnage. Ils nous ont pris aussi, parce qu'on avait à peu près l'âge. Ouais.
Donnel Reignoux, des questions sur la voix qui mue. On peut entendre ça dans une émission de télé dédiée au doublage. Est-ce que votre émission est une émission de niche? Qui sont vos spectateurs? Est-ce que c'est des geeks? Est-ce que c'est des nostalgiques qui ont connu les dessins animés quand ils étaient petits? Ou est-ce que c'est ce qu'on appelle des newcomers, des jeunes qui arrivent et qui ont la quinzaine?
Eh ben c'est ça, en fait. En gros, au début, c'était vraiment ultra niche. Et depuis, ça s'ouvre avec la récurrence, avec les réseaux sociaux qui a beaucoup aidé, notamment TikTok, pour développer tout ça. Et c'est vrai que ça s'ouvre au public et on a aussi des curieux qui viennent, alors qu'avant on se disait bon non, ça va être vraiment trop technique, trop jeu vidéo, et que là on parle de leur enfance, de trucs, ah oui, ils ont parlé de cet extrait là, c'est trop bien. Donc c'est une émission de cinéma, c'est pas une émission de doublage, on parle vraiment de toutes les licences qui nous ont tous marqués les uns les autres.
Tous les deux, avec Brigitte Lecordier, vous avez presque une vie de star, participé à des festivals, des conventions souvent dédiées au manga, aux super-héros. Comment se négocie votre présence dans ces événements? Quelles sont les demandes des organisateurs?
Moi, généralement, ils nous demandent toujours des participations, à faire des conférences, des dédicaces. Ce qui est compliqué dans les conventions, et je pense que Brigitte sera d'accord avec moi, c'est de pouvoir donner la même énergie et le même retour aux personnes qui viennent nous voir. Et deux personnes sur trois me parlent de StreamVF dans les conventions et ils ont tous des choses à me dire et il faut avoir ce petit temps-là pour tous pour qu'ils soient heureux.
Ouais, je suis d'accord, Brigitte. Tout à fait. On est extrêmement demandé. Hein. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent nous voir de plus en plus. Et effectivement, il faut avoir ce petit moment cocoon parce que, effectivement, moi, je représente énormément l'enfance des gens, le petit nounours, le petit doudou.
Bien sûr, la Madeleine. La Madeleine de Proust,
donc,
le son.
Tu peux
Est-ce
pas
vous
enregistre... dire, ok, je te fais une signature vite fait. Quoi.
Juste un mot, parfois on fait des selfies. Est-ce qu'ils vous enregistrent avec leur dictaphone?
Énormément, je fais ils 40 000 oui-oui, 72 000 nounous et des nuages magiques
à
profusion.
Ça doit être horrible de dire non à quelqu'un qui vous demande de faire la voix de oui-oui.
Je n'ai jamais dit non.
Brigitte Lecordier, oui. Vous avez un fan un peu plus connu que les autres, il s'appelle Aurel San, et vous lui avez fait une surprise organisée par une radio belge, la Radio Contact, elle s'appelle. Vous avez repris sa chanson La Quête avec la voix de Sangoku, on écoute.
À 5 ans, je voulais juste en avoir 7.
Boule de cristal.
À 7 ans, j'étais pressée de voir le reste.
Glace magique.
Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
Déjà, moi, je suis scié. Alors, j'imagine Aurel San.
Ah ouais.
Il a été très ému et il vous a fait un message vidéo pour vous remercier.
Brigitte, ça m'a mis une émotion incroyable. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous en faisant la voix de Sangoku. Il paraît que tu as enregistré à La Réunion et tout. C'est fou. Et en plus, tu l'as super bien chanté. Quoi. Ça doit être dur de chanter en Sangoku. Quoi. Je suis trop content. Je vais le regarder tous les jours en me réveillant le matin et j'aurai une super vie grâce à toi.
Oh, c'est beau,
c'est magnifique. Vous connaissez pas cet extrait?
Si, mais c'est toujours aussi émouvant d'écouter.
J'adore ce monsieur.
Voilà, vous avez échangé avec lui depuis ou pas?
Ben, en fait, il a été super cool. Il m'a invité à Bercy à voir son spectacle avec mon fils et c'était magique.
Vous connaissez l'étape d'après? C'est être invité à Bercy sur la scène.
Ah oui, ben, avec plaisir.
Le feat, on va le faire. Prochain projet, qu'est-ce qui va arriver pour tous les deux?
Mais c'est vrai que La Quête, c'est l'histoire de Goku, hein. Voilà, à 5 ans, il voulait en avoir 7.
Ah ouais, moi, prochain projet, c'est mardi soir, spécial Star Wars, avec la voix d'Obi-Wan Kenobi, la voix de Kylo Ren, et puis le directeur artistique de tout ce joli monde. Et puis, Top Gun Maverick sur la VF.
Oui, vous doublez Miles Teller, c'est ça?
Ouais, c'est le Rooster. Et tous ceux qui me connaissent savent que Top Gun, ça coule dans mes veines. J'en parle à chaque émission, je suis un fou. D'ailleurs, il y a plein de choses dans l'émission qui découlent de Top Gun. Et quand on m'a dit que j'allais doubler un des rôles principaux du film, j'ai véritablement hurlé chez moi quand j'ai reçu la réponse.
Et si en plus, je vous dis que c'est un film européen, Europe 1, vous serez absolument ravis. Merci beaucoup Donald Reignoux, merci beaucoup Brigitte Lecordier.
Merci à vous.
Merci pour ces voix. On salue Aurel San qui nous écoute parfois.
Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube.
Ah, c'est bien placé ça. Hein.
Elle a eu raison. C'est aussi pour ça qu'on vous a invité. Culture Média continue. Retrouvez-nous après les infos de 10h. Vous allez retrouver les télescopages de Bruno Donnet. Il a comparé les pronostics que David Pujadas avait fait la semaine dernière au sujet de la composition du gouvernement avec la liste des ministres réellement nommés. Et il a beaucoup ri. Notre invité, c'est le chanteur Ben l'Oncle Soul. On l'appelait comme ça autrefois. Son 5e album, Red Mango, revisite les classiques pop et soul en version reggae. Et puis dans les indispensables, une série française à voir sur Netflix, Les 7 vies de Léa. C'est Héloïse Goy qui nous raconte ça. Et puis Sébastien Bordenave va nous présenter un roman graphique tout à fait autre chose, Les saveurs du béton. Quel oxymore. Marc-Antoine Lebray, lui aussi, fait des voix. Il sera en fin d'émission avec nous. A tout de suite sur Europe 1.